28. Minuit, la fin du quart, l'heure d'aller se chercher un abri. En bas, dans la batterie calfeutrée, c'était la tempête avec ses dessous de misère, avec ses réalités pitoyables. D'un bout à l'autre, on voyait cette sorte de longue halle sombre, à demi éclairée par les fanaux qui vacillaient. Les gros canons, appuyés sur leurs jambes de force, se tenaient tant bien que mal, cordés par des câbles de fer. Et tout ce lieu remuait. Il avait les mouvements d'une chose qu'on secourait dans un crible, qu'on secourait sans trêve, sans merci, perpétuellement, avec une rage aveugle. Il craquait de partout. Il avait des tressaillements de choses animées qui souffrent, tiraillées, exténuées, comme près de s'éventrer et de mourir. Et les grandes eaux du dehors, qui voulaient entrer, filtraient çà et là en filets, en gerbes sinistres. On se sentait soulevé si vite que les jambes pliaient. Et puis les choses se dérobaient, les choses s'enfonçaient sous les pas. Et on descendait avec tout, en se raidissant malgré soi, comme pour une espèce de résistance. Il y avait des sons aigres, faux, étonnants, qui sortaient de partout. Toute cette membrure en forme d'oiseau de mer qui était la Médée se disjoignait peu à peu en gémissant sous l'effort terrible. Et dehors, derrière le mur de bois, toujours le même grand bruit sourd, la même grande voix d'épouvante. Mais tout tenait bon quand même. La longue batterie demeurait intacte, on la voyait toujours d'un bout à l'autre, par moments toute penchée, à demi retournée, ou bien se redressant toute droite avec une secousse, ayant l'air plus longue encore dans cette obscurité où les fanaux étaient perdus, paraissant se déformer et grandir dans tout ce bruit, comme un lieu vague de rêve. Au plafond très bas étaient pendues d'interminables rangées de poches en toile, gonflées toutes par un contenu lourd, ayant l'air de ces nids que les araignées accrochent aux murailles, des poches grises enfermant chacune un être humain, des hamacs de matelots. Çà et là, on voyait pendre un bras ou une jambe nue. Les uns dormaient bien, épuisés par les fatigues. D'autres s'agitaient et parlaient tout haut dans de mauvais songes. Et tous ces hamacs gris se balançaient, se frôlaient dans un mouvement perpétuel, ou bien se heurtaient durement et les têtes se blessaient. Sur le plancher, au-dessous des pauvres dormeurs, c'était un lac d'eau noire qui roulait de droite et de gauche, entraînant des vêtements souillés, des morceaux de pain ou de biscuits, des soupes chavirées, toutes sortes de détritus et de déjections immondes. Et de temps en temps, on voyait des hommes hâves, défaits, demi-nus, grelottants avec leurs chemises mouillées, qui erraient sous ces rangées de hamacs gris, cherchant le leur, eux aussi, cherchant leur pauvre couchette suspendue, leur seul gîte un peu chaud, un peu sec, où ils allaient trouver une espèce de repos. Ils passaient en titubant, s'accrochant pour ne pas tomber, et heurtant de la tête ceux qui dormaient. Chacun pour soi en pareil cas. On ne prend plus garde à personne. Leurs pieds glissaient dans les flaques d'eau et d'immondices. Ils étaient insouciants de leur malpropreté, comme des animaux en détresse. Une buée lourde à respirer emplissait cette batterie. Toutes ces ordures qui roulaient par terre donnaient l'impression d'un repaire de bêtes malades, et on sentait cette puanteur âcre qui est particulière au bas-fond des navires pendant les mauvais jours de la mer. À minuit, Yves, lui aussi, descendit dans la batterie avec les autres gabiers de bâbord. Ils avaient fait un supplément de quart d'une heure, à cause des embarcations qu'il avait fallu ressaisir. Ils se coulèrent par le panneau entrebâillé, qui se referma sur eux, et vinrent se mêler à cette misère flottante. Ils avaient passé 5 heures à leur rude travail, balancés dans le vide, éventrés par les grands souffles furieux de là-haut, et tout trempé par cette pluie fouettante qui leur avait brûlé le visage. Ils firent une grimace de dégoût en pénétrant dans ce lieu fermé où l'air sentait la mort. Yves disait, avec son grand air dédaigneux, « Pour sûr, c'est encore ces Parisiens qui nous ont apporté la peste ici. » Ils n'étaient pas malades, eux qui étaient de vrais matelots. Ils avaient encore la poitrine dilatée par tout ce vent de la Hune, et la fatigue saine qu'ils venaient d'endurer allait leur donner un peu de bon sommeil. Ils marchaient sur les boucles, sur les taquets, sur les bouts des affûts avec précaution, pour éviter l'eau boueuse et les ordures, posant leurs pieds nus sur toutes les saillies, se perchant avec des frayeurs de chatte. Près de leur hamac, ils se déshabillèrent, suspendant leurs bonnets, suspendant leurs grands couteaux à chaîne de cuir, leurs vêtements trempés, suspendant tout, et se suspendant eux-mêmes. Et quand ils furent nus, ils époussetèrent de la main un peu d'eau qui ruisselait encore sur leur poitrine dure. Après quoi, ils s'enlevèrent au plafond avec une légèreté de clown, et s'étendirent tout contre les poutres blanches dans leur étroite couchette de toile. En haut, au-dessus d'eux, après chaque grande secousse, on entendait comme le passage d'une cataracte. C'étaient les lames, les grandes masses d'eau qui balayaient le pont. Mais la rangée de leur hamac prit quand même le balancement lourd des rangées voisines, en grinçant sur les crocs de fer, et eux s'endormirent profondément au milieu du grand bruit terrible. Bientôt, autour du hamac d'Yves, les femmes birmanes vinrent danser. Au milieu du nuage dansant, rendu plus ténébreux par le rêve, elles arrivèrent l'une après l'autre avec leurs sourires morts, en d'étranges costumes de soie, toutes couvertes de pierreries. Elles balançaient leurs hanches mollement au son du gong, tenant leurs mains en l'air et leurs doigts écartés comme les fantômes. Elles avaient des contournements épileptiques des poignets qui faisaient s'enchevêtrer leurs longues griffes enfermées dans des étuis d'or. Le gong, c'était la tempête qui en jouait, dehors contre les murailles. 29. Moi aussi, à minuit, quand j'ai fini mon quart et vu descendre Yves, je rentrai dans ma chambre pour essayer de dormir. Après tout, cela ne nous regardait plus ni l'un ni l'autre, le sort du navire. Nous avions fourni notre temps de veille et de travail. Nous pouvions nous coucher, maintenant, avec cette insouciance absolue qu'on a sur mer lorsque les heures de service sont finies. Dans ma chambre à moi, qui était sur le pont, l'air ne manquait pas, au contraire. Par les vitres brisées, toutes les rafales et la pluie furieuse pouvaient entrer. Les rideaux se tordaient en spirale et montaient au plafond avec des bruits d'ailes. Comme Yves, je suspendis mes vêtements mouillés. L'eau ruisselait sur ma poitrine. On n'était guère bien dans ma couchette. J'y fus vite endormi pourtant par excès de fatigue. Roulé, secoué, à demi chaviré, je me sentais m'en aller de droite et de gauche, et ma tête se heurtait sur le bois, douloureusement. J'avais conscience de tout cela dans mon sommeil, mais je dormais. Je dormais et je rêvais d'Yves. De l'avoir vu tomber dans le jour, cela m'avait laissé une espèce d'inquiétude, et comme la notion vague d'avoir été frôlé de près par une chose sinistre. Je rêvais que j'étais couché dans un hamac comme autrefois au temps de mes premières années de mer. Le hamac d'Yves était près du mien. Nous étions balancés terriblement, et le sien se décrochait. Au-dessous de nous, il y avait une agitation confuse de quelque chose de noir qui devait être l'eau profonde. Et lui allait tomber dedans. Alors je cherchais à le retenir avec mes mains, qui étaient molles comme dans les rêves. J'essayais de le prendre à bras-le-corps, de nouer mes mains autour de sa poitrine, me rappelant que sa mère me l'avait confié. Et je comprenais avec angoisse que je ne le pouvais pas, que je n'en étais plus capable. Il allait m'échapper et disparaître dans tout ce noir mouvant qui bruissait au-dessous de nous. Et puis, ce qui me faisait peur, c'est qu'il ne se réveillait pas et qu'il était glacé, d'un froid qui me pénétrait, moi aussi, jusqu'à la moelle des os. Même la toile de son hamac était devenue rigide comme la gaine d'une momie. Et je sentais dans ma tête les vraies secousses, la vraie douleur de tous ces chocs. Je mêlais ce réel avec l'imaginaire de mon rêve, comme il arrive dans les états d'extrême fatigue. Et alors la vision sinistre en prenait d'autant plus d'intensité et de vie. Ensuite, je perdis conscience de tout, même du mouvement et du bruit. Et ce fut alors seulement que le repos commença. Quand je me réveillais, c'était le matin. La première lumière était de cette couleur jaune qui est particulière au lever du soleil, les jours de tempête, et on entendait toujours le même grand bruit. Yves venait d'entr'ouvrir ma porte et me regardait. Il était arc-bouté dans l'ouverture, se tenant d'une main, penchant son torse en avant et en arrière, suivant les besoins de l'instant pour conserver son équilibre. Il avait repris ses pauvres vêtements mouillés, et il était tout couvert du sel de la mer qui s'était déposé dans ses cheveux, dans sa barbe, comme une poussière blanche. Il souriait, l'air tranquille et très doux. « J'avais envie de vous voir, dit-il. C'est que j'ai beaucoup rêvé sur vous cette nuit. Tout le temps j'ai vu ces bonnes femmes de Birmanie avec leurs grands ongles en or, vous savez. Elles vous entouraient avec leurs mauvaises singeries, et je ne pouvais pas réussir à les renvoyer. Après cela, elles voulaient vous manger. Heureusement qu'on a sonné le branle-bas. J'en étais tout en sueur de la peur que ça me faisait. Ma foi, moi aussi je suis content de te voir, mon pauvre Yves. Car, de mon côté, j'ai beaucoup rêvé sur toi. Est-ce qu'il fait toujours aussi mauvais qu'hier? Peut-être un peu plus maniable. Et puis voilà le jour. Tant qu'il fait clair, vous savez, c'est toujours mieux pour travailler dans la mature. Mais quand il faisait aussi noir que dans le trou du diable, comme cette nuit, ça ne me va pas du tout. » Yves promena un regard de satisfaction tout autour de ma chambre, installée par lui en prévision du gros temps. Rien n'avait bougé grâce à son arrangement. Par terre, c'était bien un lac d'eau salée sur lequel diverses choses flottaient. Mais les objets auxquels je tenais un peu étaient restés suspendus ou fixés, comme les meubles, aux panneaux des murs par des clous et des cornières de fer. Tout était cordé, ficelé, attaché avec un soin extrême au moyen de cordes goudronnées de toutes les grosseurs. On voyait des armes, des bronzes noués avec des vêtements dans un pêle-mêle bizarre. Des masques japonais à longue chevelure humaine nous regardaient à travers des treillis de ficelles au goudron. Ils avaient le même rire lointain, le même tirement d'yeux que ces femmes birmanes aux ongles d'or qui avaient voulu me manger dans le rêve d'Yves. Une sonnerie de clairon tout à coup alerte et joyeuse, le rappel au lavage. Ce clairon avait des vibrations grêles, un peu argentines, dans ce beuglement formidable du vent. Laver le pont quand les lames déferlent dessus, cela semblerait une opération très insensée à des gens de terre. Nous, nous ne trouvions pas cela trop extraordinaire. Cela se fait tous les matins, ce lavage, toujours et quand même. C'est une des règles primordiales de la vie maritime. Et Yves me quitta en disant, comme s'il se fût agi de la chose du monde la plus naturelle, « Ah, je m'en vais à mon poste de propreté, alors. » Cependant, ce clairon avait péché par excès de zèle et sonné sans ordre à son heure habituelle, car on ne lava pas le pont ce matin-là. On sentait bien que c'était plus maniable, comme disait Yves. Les mouvements étaient plus allongés, plus réguliers, plus semblables à des balancements de houle. La mer était moins dure, et on n'entendait plus tant de ces grands chocs aux bruits profonds et sourds. Et puis le jour arrivait. Un vilain jour, il est vrai, une étrange lividité jaune, mais enfin c'était le jour, moins sinistre que la nuit. Notre heure n'était pas venue sans doute, car le surlendemain, nous retrouvâmes le calme dans un port en Chine, à Hong Kong. 30 septembre 1877. La Médée a rebroussé chemin depuis longtemps. Tous les vents, tous les courants l'ont favorisée. Elle a marché, marché si vite pendant des jours et des nuits qu'on en a perdu la notion des lieux et des distances. Vaguement, on a vu passer le détroit de Malacca, franchi à la course. La mer Rouge remontait à la vapeur dans un éblouissement de soleil, puis la pointe de Sicile, et enfin le grand lion couché de Gibraltar. Maintenant, on veille l'horizon, et la première terre qui paraîtra tout à l'heure sera une terre bretonne. Je suis arrivé, moi, sur cette Médée, juste pour finir la campagne, et cette fois ma promenade avec Yves n'aura pas duré 5 mois. Au milieu de l'étendue grise, il y a maintenant des traînées blanches, puis une tour avec de petits îlots sombres éparpillés, tout cela encore très lointain et à peine visible, sous le mauvais jour terne qui nous enveloppe. Nous nous figurerions sans peine être encore là-bas, dans cette extrême Asie que nous avons quittée hier. Car les choses à bord n'ont pas changé de place, ni les visages non plus. Nous sommes toujours encombrés de chinoiseries. Nous continuons à manger des fruits cueillis là-bas et encore verts. Nous traînons avec nous des odeurs chinoises. Mais pas du tout. Notre maison s'est déplacée singulièrement vite. Cette tour et ces îlots, ce sont les pierres noires. Brest est là, tout près, et avant la nuit, nous y serons entrés. Toujours une émotion de souvenir quand reparaissent cette grande rade de Brest, imposante et solennelle, et ces grands navires à voile qu'on s'est déshabitué de voir ailleurs. Toutes mes premières impressions de marine, toutes mes premières impressions de Bretagne, et puis enfin, c'est la France. Le Borda, là-bas, je le regarde et je retrouve dans ma mémoire le bureau sur lequel j'ai passé, accoudé, de longues heures d'études, et le tableau noir sur lequel j'écrivais fiévreusement, avant l'examen, les formules compliquées de la mécanique et de l'astronomie. Yves, à cette époque, était un petit garçon qu'on eût dit sérieux et sage, un petit novice breton à la figure douce, qui habitait le vaisseau d'à côté, la Bretagne, le voisin et le compagnon du Borda. Nous étions des enfants alors, aujourd'hui des hommes faits, demain la vieillesse, après-demain mourir. 31. Dimanche, jour de grande soûlerie dans Brest. 10 heures du soir. Nuit calme, clair de lune sur la mer tranquille. À bord de la Médée, les matelots ont fini de chanter leur longue chanson et le silence vient de se faire. Depuis la tombée de la nuit, mes yeux sont tournés vers la lumière de la ville. J'attends avec inquiétude cette chaloupe dont Yves est le patron. Elle est allée à terre et ne revient pas. Enfin, voici son feu rouge qui s'avance en retard de 2 heures. La mer est sonore la nuit. Déjà, on entend des cris qui se mêlent au bruit des avirons. Il doit se passer dans cette chaloupe d'étranges choses. Elle est à peine accostée. 3 mètres, ivre, furieux, se précipite à bord et me demande la tête d'Yves. Qu'on le mette au fer pour commencer, qu'on le juge et qu'on le fusille après, car il a frappé ses supérieurs en service. Yves est là debout, tremblant de la lutte qu'il vient de soutenir. Ses 3 mètres l'ont battu, ou du moins ont essayé de le battre. Il croyait me faire du mal, dit-il avec mépris, et il jure qu'il n'a pas rendu les coups de ces 3 vieux. D'ailleurs, il les eut chavirés ensemble du revers de sa main. Non, il les a laissés s'accrocher à lui et le déchirer. Ils lui ont égratigné le visage et mis ses vêtements en lambeaux parce qu'il refusait de leur laisser conduire la chaloupe à eux qui étaient ivres. Tous les chaloupiers aussi sont ivres, par la faute d'Yves qui les a laissés boire. Et les 3 maîtres se tiennent toujours là, tout près de lui, continuant de crier, de l'injurier, de le menacer, 3 vieux ivrognes, grotesques dans leur bégaiement de fureur, et qui seraient très risibles si la discipline implacable n'était pas derrière eux pour rendre cette scène affreusement grave. Yves, debout, les poings serrés, les cheveux tombés sur le front, la chemise déchirée, la poitrine toute nue, à bout de courage pour endurer ses injures, prêt à frapper, en appel à moi du regard dans sa détresse. Oh, la discipline militaire! À certaines heures, elle est bien lourde. Je suis officier de quart, moi, et il est contre toutes les règles que je m'en mêle autrement que par des paroles calmes, et en les remettant tous à la justice du capitaine d'armes. Contre toutes les règles aussi, je saute à bas de la passerelle et je me jette sur Yves. Il était temps. Je passe mes bras autour de ses bras à lui, que j'arrête ainsi dans les miens, au moment terrible où ils allaient frapper. Et je les regarde, les autres, qui alors, en présence de ce renversement de la situation, battent en retraite comme des chiens devant leur maître. Heureusement, c'est la nuit, et il n'y a pas de témoins. Les chaloupiers seuls, et ils sont ivres. Puis, d'ailleurs, je suis sûr d'eux. Ce sont de braves enfants, et s'il faut aller devant un conseil, ils ne nous chargeront pas. Alors je prends Yves par les épaules, et passant devant ces 3 ennemis qui se rangent pour nous faire place, je l'emmène dans ma chambre et l'y enferme à double tour. Là, pour le moment, il est en sûreté. On m'appelle chez le commandant que tout ce bruit a réveillé. Hélas, il faut le lui expliquer. Et j'explique, en atténuant le plus possible la faute de mon pauvre Yves. J'explique. Après, pendant quelques mortelles minutes, je supplie. Je crois que je ne vais jamais supplier de ma vie. Il me semble que ce n'est plus moi qui parle. Et tout ce que je puis dire ou faire vient se briser contre le raisonnement glacial de cet homme qui tient entre ses mains cette existence d'Yves qu'on m'a confiée. J'ai bien réussi là-haut à écarter le plus grave, la question des coups donnés à des supérieurs. Mais restent les outrages et le refus d'obéissance. Yves a fait tout cela. Dans le fond, c'est peut-être inique et révoltant. Dans la lettre, c'est vrai. Ordre de le mettre au fer tout de suite, pour commencer, et de l'y envoyer conduire par la garde à cause de ce bruit et de ce scandale. Pauvre Yves! C'était la fatalité acharnée contre lui, car cette fois, il n'était pas bien coupable. Et tout cela arrivait maintenant qu'il était plus sage, maintenant qu'il faisait de grands efforts pour ne plus boire et se bien conduire.